l'esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition de l'Esprit public au cours de laquelle nous nous efforcerons d'éclairer certains éléments de l'actualité de la semaine écoulée. Nous le ferons avec Jean-Louis Bourlange, essayiste, avec Sylvie Kaufmann, directrice éditoriale au journal Le Monde, avec Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova, et avec Michaela Wiegel, correspondante à Paris de la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Avant de commencer l'émission, je voudrais expliquer ou indiquer à nos auditeurs qu'un choix s'offrait à moi de choisir parmi les sujets possibles de politique intérieure, de choisir Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot ou Emmanuel Macron et François Bayrou. Dans la mesure où c'est la semaine prochaine que Emmanuel Macron va indiquer les détails et la totalité, semble-t-il, de son programme, il m'a semblé que nous n'allions pas consacrer deux émissions de suite à Emmanuel Macron et qu'il serait bon de nous intéresser aujourd'hui au rapport de force entre Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon et de remettre à la semaine prochaine l'examen de la candidature et du programme d'Emmanuel Macron. Donc, jeudi dernier, Jean-Luc Mélenchon a adressé une lettre à Benoît Hamon dans laquelle il détaille ses conditions pour une alliance entre leurs deux partis. Il a appelé le candidat socialiste à donner des garanties politiques précises sur son engagement à rompre avec le quinquennat et son bilan, et réclamé l'abolition de ses mesures emblématiques, la loi El Khomri, le CICE et l'état d'urgence permanent. Jean-Luc Mélenchon a dit ne vouloir aucun accord ni à la présidentielle ni aux législatives avec Emmanuel Macron et son mouvement, et il a également exprimé son souhait de voir l'investiture aux législatives retirée à Manuel Valls, Myriam El Khomri ou encore Bruno Le Roux, alors que Benoît Hamon avait déjà indiqué début février son refus d'offrir la tête politique de qui que ce soit. Dans l'attente d'un rendez-vous avec le candidat socialiste, Jean-Luc Mélenchon a exprimé son refus de s'accrocher aux corbillards du PS, tandis que Benoît Hamon, en déplacement à Lisbonne, déclarait qu'il ne comptait pas courir après son ancien camarade socialiste avant de se présenter comme le mieux placé pour faire gagner la gauche. De nombreuses divergences subsistent dans le programme des deux candidats, notamment sur les questions touchant au revenu universel, à la réforme fiscale, à la création d'une assemblée de la zone euro souhaitée par Benoît Hamon et sur nombre de questions de politique étrangère. Alors que François Bayrou et Emmanuel Macron ont annoncé leur alliance, des ralliements aux fondateurs d'En Marche continuent d'arriver de la gauche, récemment celui de François de Rugy, l'un des candidats à la primaire de la Belle Alliance Populaire. Yannick Jadot a quant à lui annoncé son ralliement à Benoît Hamon jeudi soir, tandis que Jean-Luc Mélenchon, invité de l'émission politique, s'est dit prêt à discuter avec le candidat socialiste sur une candidature unique. Il a demandé une réponse à la lettre fixant ses conditions et a proposé à Benoît Hamon une rencontre dimanche ou lundi. Sur cette question, Marc-Olivier Padis.
Les électeurs de gauche peuvent se sentir un peu désolés devant le spectacle qui leur est donné, puisque une des préoccupations des électeurs de gauche, c'est la division des forces de la gauche au premier tour de l'élection présidentielle qui pourrait les priver d'une présence au deuxième tour, une fois de plus, comme en 2002. Ce à quoi on assiste, c'est un tour de piste un peu compliqué ou une sorte de jeu de poker menteur dans lequel il est question d'envoyer des lettres, des SMS, mais pas de message sur le répondeur, de prendre un café. Enfin, c'est très difficile à suivre. Dans la perspective où probablement il n'y aura pas d'accord au bout du compte, même s'il y a encore des discussions aujourd'hui, demain, c'est quand même très très peu probable dans la mesure où, comme vous l'avez rappelé, Jean-Luc Mélenchon a dit qu'il ne s'accrocherait pas à un corbillard pour entamer une négociation. Ça semble quand même assez difficile. Benoît Hamon avait d'ailleurs été prudent lors des primaires de la Belle Alliance Populaire en disant qu'il engagerait une discussion avec Jean-Luc Mélenchon. Il s'est jamais, il n'a jamais promis d'aller plus loin. Il a dit que il y aurait des discussions. Et Jean-Luc Mélenchon fait semblant aussi de maintenir ouverte la discussion, puisque l'enjeu en réalité de cette histoire, c'est de savoir qui porterait la responsabilité d'un échec de l'alliance éventuelle. Et personne ne veut vraiment porter la responsabilité. Jean-Luc Mélenchon a été celui qui a été le plus agressif en parlant de Corbillard pour le PS. Benoît Hamon, sa stratégie depuis qu'il a été désigné candidat, c'est de trouver un accord rapidement avec les Verts, de manière à mettre la pression sur Jean-Luc Mélenchon en disant, vous voyez, moi je fais l'union, donc c'est vous qui êtes facteur de désunion. Et ça marche un peu, puisque effectivement, jeudi soir, Jean-Luc Mélenchon a été obligé, après donc l'annonce que Yannick Jadot se retirait de la course et l'annonce de l'accord entre les Verts et les socialistes, Jean-Luc Mélenchon a été obligé de montrer un peu de bonne volonté pour parvenir à un accord. Bon, mais tout ça semble quand même très improbable, parce que sur le fond du programme, les désaccords sont tout de même nombreux. Sans détailler l'ensemble du programme, ce serait fastidieux, mais on voit quand même qu'il y a deux grands sujets qui déterminent un peu tout. Le premier, c'est que Benoît Hamon a pris une option très très forte sur l'idée que ce qui nous attend dans nos économies, c'est la disparition du travail, et que par conséquent, il fallait imaginer un revenu inconditionnel, bon, un peu en trompe-l'œil d'ailleurs, parce qu'en réalité, sa proposition, c'est une sorte de RSA plus généreux, élargi aux jeunes 18-24 ans qui sont aujourd'hui exclus du dispositif. Mais Jean-Luc Mélenchon, quand on lui parle de revenu universel, il dit c'est une trappe à pauvreté, je n'en veux pas. Bon, donc fin de la discussion. Deuxième sujet très important, c'est l'attitude vis-à-vis de l'Europe. Évidemment, Benoît Hamon veut une réorientation de l'Europe, il veut une discussion, un rapport de force, il veut obtenir des choses en termes de traités budgétaires, une assemblée de la zone euro, des choses comme ça, alors que Jean-Luc Mélenchon parle, lui, carrément de sortir des traités européens pour échapper à la dette. Et quand il parle même qu'il revendique la fin de la dépendance de la Banque centrale, il faut bien comprendre que derrière, c'est quand même, ça veut dire la sortie de l'euro, parce qu'il n'y a pas d'euro sans une Banque centrale indépendante. Et par conséquent, dire qu'il faut mettre fin à la dépendance de la Banque centrale, c'est dire qu'il faut mettre fin à l'euro. Donc on voit mal comment il pourrait trouver un accord sur le fond, même s'il y a certains points aussi de la critique du bilan de Hollande qui peut être en commun, mais même sur la loi El Khomri, Benoît Hamon ne jette pas tout, il garde le compte personnel d'activité, qui est quand même une avancée importante, le droit à la déconnexion, la garantie jeune. Bon, et puis il ne peut pas accepter les exigences de Jean-Luc Mélenchon, et Jean-Luc Mélenchon le sait très bien, il est monté très très haut en gamme en disant rompre complètement avec le bilan, exclure Manuel Valls, enfin ce serait suicidaire pour Benoît Hamon. Je pense que ce jeu va durer encore un peu, mais qu'au bout du compte, je suis prêt à prendre le risque pour penser qu'il n'y aura pas d'accord.
Michaela Vigal.
Oui, alors moi je trouve que la situation actuellement sur la gauche ressemble assez fortement à la fin de l'ère de Gerhard Schröder à l'époque en Allemagne, sauf que, et ça c'est vraiment la différence de taille, et je crois que ça explique toute la difficulté. À l'époque, en Allemagne, les réformateurs étaient restés dans le vieux parti, le SPD, et tous ceux qui n'étaient pas d'accord sont sortis et ont rejoint l'aile gauche qui s'est reformée dans le parti Die Linke. Et aujourd'hui, la logique, normalement, voudrait aussi que ça se passe pareil, c'est-à-dire que les réformateurs restent dans ce cœur du parti, sauf que c'est tout le contraire. C'est un des opposants les plus farouches qui a donc été désigné en la personne de Benoît Hamon. Et donc, c'est ça, à mon avis, qui explique l'impossibilité d'une alliance, puisque comme il est encore porté par ce qui reste du Parti socialiste, il peut difficilement dire « je vais vers Jean-Luc Mélenchon ». Et ça explique aussi toute l'ambiguïté de son positionnement, parce que tout ce qu'il dit sur l'Europe, finalement, est assez compatible avec ce que Mélenchon dit, sauf qu'il n'est pas prêt à penser aller jusqu'au bout. Parce que quand... Hamon promet d'endetter encore davantage la France et de ne respecter aucune des règles européennes que la France a acceptées, ben finalement, ça revient quand même à arriver à ce fameux plan B dont nous parle tout le temps Mélenchon. Donc, les effets vont être les mêmes, sauf que, encore une fois, c'est cette partie, ces structures qui se maintiennent, qui l'empêchent d'aller jusqu'au bout de son raisonnement. Donc, la situation est très curieuse et, à mon avis, elle va longuement handicaper la reconstitution d'un parti de gouvernement à proprement parler, puisque les réformateurs ont été rejetés, en quelque sorte, à l'extérieur du Parti socialiste, c'est Emmanuel Macron qui les a pris dans ses bras, et on voit bien la difficulté. Toutes les proches de Manuel Valls qui doivent maintenant soutenir Benoît Hamon, François de Rugy, le premier, a cassé cet accord qui était quand même un accord écrit quand on participe à la primaire. On accepte aussi de soutenir le vainqueur. Pour l'instant, il n'y a aucun socialiste qui a fait le pas, mais je parie que ça va arriver. Alors, pour l'Europe, ça va créer quand même une situation un peu confuse, parce que on n'aura plus un parti de gouvernement structuré comme avant en France, comme interlocuteur. Et je partage l'opinion de Marc-Olivier que je vois difficilement comment Mélenchon et Hamon puissent se retrouver ensemble à cause de cette implosion, en quelque sorte, du Parti socialiste.
Sylvie Goffman.
Oui, pour reprendre l'angle européen qu'évoquait Michaela, en Europe, je voudrais rappeler que les gens sont totalement paniqués en regardant tous nos partenaires européens. Quand ils regardent cette campagne française, je crois qu'ils sont gagnés par un sentiment de panique. Parce qu'on a, je voudrais commencer par souligner ça avant de venir à Hamon et Mélenchon, on a quand même une campagne totalement exceptionnel, qui rompt vraiment avec l'histoire des campagnes présidentielles de la Ve République. On a à ce stade, à moins de 2 mois du premier tour, dans cette multiplicité de candidats, à part Marine Le Pen, il n'y a pas de candidat leader, il n'y a pas de débat dominant, il n'y a pas de cristallisation de la dynamique. On a donc le Front National, un parti d'extrême droite qui est en tête. On n'a plus donc de candidats écologistes. Je crois que c'est la première fois depuis 1974. Et l'ensemble des candidats semblent avoir accepté l'idée, comme un fait acquis, que Marine Le Pen sera en tête à l'issue du premier tour. Et la preuve qu'ils ont accepté cette idée, c'est que personne ne l'attaque plus frontalement. Ils sont davantage occupés à s'attaquer les uns les autres. Ils n'essayent plus de prendre la première place. Ils essayent plutôt de se disputer la deuxième. Voilà, donc tout ça est déjà tout à fait exceptionnel et, je crois, éminemment dangereux. Alors, à gauche, l'émiettement n'est pas tout à fait exceptionnel. Je crois qu'on a connu ça déjà avant. La virulence de l'affrontement non plus. Si je me souviens bien, Marché n'était pas tendre non plus avec Mitterrand à l'époque. Mais on est dans un paysage politique très différent, déstructuré, chaotique, tout à fait imprévisible. Et donc, là, on a l'illustration avec ce qui se passe à gauche et que Christiane Taubira décrit comme la lente déliquescence de la gauche. Donc, comment peut-on imaginer une union à gauche dans ce panorama, dans une gauche où il n'y a ni leader dominant ni parti dominant? Alors, on en vient à la petite union, comme on dit, avec
Jadot qui s'allie avec Benoît Hamon maintenant, mais Jean-Luc Mélenchon là-dedans est quand même un gros morceau à avaler. Lui, il est convaincu que c'est lui le leader naturel de la gauche face à ce corbillard, et je suis désolée, ce mot de corbillard, c'est tout à fait mélenchonien, mais c'est un mot qui fait dérailler les négociations avant même qu'elles aient commencé, mais c'est un mot qui va rester comme un marqueur sur le Parti Socialiste qui a totalement perdu son hégémonie à gauche. Alors Benoît Hamon, lui, il est dans une situation très délicate parce que d'abord il était, je crois, probablement surpris d'avoir remporté la primaire. Ensuite, il était le frondeur, mais maintenant il est obligé de composer avec ce PS qu'il a vilipendé. Il est débordé sur sa gauche par Mélenchon, il est débordé sur sa droite par Macron. Je crois que la tâche est quand même très difficile. C'est vrai que l'alliance, le ralliement de Jadot lui apporte un petit peu de souffle, mais ça va être quand même très très compliqué. Alors, on voit aussi que les membres du gouvernement ne se pressent pas pour le soutenir. Cazeneuve se promène à l'étranger partout, je crois qu'il était en Chine. Marisol Touraine est claquemurée dans son ministère. Stéphane Le Foll parle de la possibilité de voter Macron. Donc, on est dans une situation, je crois, tragique pour les électeurs de gauche, et on voit bien qu'ils saisissent parfaitement l'enjeu de cette déroute possible, de cet émiettement à gauche. Et l'enjeu, c'est la déroute de la gauche au deuxième tour. À part Christiane Taubira, il y avait un texte de Robert Guédiguian dans Le Monde qui évoquait, qui suppliait les Mélenchon et Hamon de s'unir. Il y a eu aussi à la radio l'autre jour sur France Inter les auditeurs qui appelaient, qui imploraient quasiment, je crois que c'était Éric Coquerel, le coordonnateur du parti de gauche, qui était l'invité, et les auditeurs l'imploraient littéralement de faire quelque chose, de s'unir. On en est là, et je crois que ça se présente quand même assez mal pour ces électeurs.
Jean-Louis Bourlange.
Oui, ce qui est frappant sur l'échiquier politique, et notamment sur la partie gauche de cet échiquier, mais pas exclusivement, c'est le décalage entre les jeux, à la fois les jeux personnels et les jeux partisans, de tous ces acteurs, et la clarté relative des grands enjeux idéologiques qui sont sur la table. En réalité, on voit bien aujourd'hui qu'il y a trois offres politiques, et trois seulement, qui ont une certaine cohérence. Il y a une offre qui est à la droite de la droite, qui est d'abord celle du Front National, mais manifestement une partie non négligeable des Républicains, qui est autoritaire, protectionniste, xénophobe, très attentive, très sécuritaire, très attentive à une politique d'extrême rigueur à l'égard des immigrés, et ça constitue quelque chose qui est porté par une fraction très importante de la population.
Et anti-européenne.
Comment ?
Et anti-européenne.
Et anti-européen, oui, je vais, oui, souverainiste, bien sûr, c'était un facteur commun, vous avez raison. Deuxièmement, on a une offre au centre, centre-droit, centre-gauche, qui, pour parler de façon extrêmement sommaire, on y reviendra la semaine prochaine, est, selon le mot de Raymond Barre, libéral, c'est-à-dire favorable à l'entreprise et à l'économie ouverte, social, c'est-à-dire favorable à la régulation publique et au maintien des grandes institutions de protection sociale, et européenne, avec l'idée que seule, même si l'Union européenne est décevante aujourd'hui, seule la construction d'une Europe politique permet de lutter contre les nouveaux barbares qui, de Trump à Poutine, en passant par Daesh, nous entourent. Ça, c'est une offre. Troisièmement, on a une offre révolutionnaire, contestataire, on l'appelle comme on veut, de gens qui refusent la mondialisation, qui refusent le capitalisme, et donc qui refusent les cadeaux, entre guillemets, faits aux entreprises, qui estiment que c'est dans la négation des exigences de compte et dans l'augmentation continue des rémunérations des salariés et dans la confiscation d'un certain nombre de biens au sommet de la hiérarchie que l'on peut arriver à quelque chose. C'est une offre qui est très profondément utopique, elle a peut-être sa cohérence, hein, je ne veux pas en discuter maintenant, mais qui est en rupture totale avec l'ordre intérieur, l'ordre européen, l'ordre international, et qui donc n'a assez peu de chances d'émerger en termes gouvernementaux, mais recueille, non seulement en France, mais dans l'ensemble de l'Europe, un grand nombre de suffrages. Il suffit de voir la façon dont Corbyn a été réélu comme leader du Parti travailliste, de voir comment Podemos s'est maintenu en Espagne, etc., et comment, effectivement, Hamon s'est imposé dans la primaire socialiste. Alors, on a cette cohérence, et en fait, le choix qui nous attend, le choix logique, ce serait entre ces trois sensibilités. Et puis, à côté de ça, alors, on a des acteurs qui, passez-moi l'expression, qui merdoient complètement. Alors, je ne traite pas de la droite, mais à gauche, c'est fascinant. Parce que nous avons un succès indiscutable de Hamon, et quand même assez déconcertant aux primaires, qui fait qu'il substitue une logique de protestation et de contestation à une logique de gouvernement qui est celle du hollandisme, donc qui laisse complètement pantoise la droite du Parti Socialiste, enfin la partie raisonnable, gouvernementaliste du Parti Socialiste. Mais en même temps, il ne parvient pas à trouver un accord avec... il doit se modérer du côté de l'indignation, effectivement, du côté de Mélenchon, parce que s'il fait un accord trop favorable à Mélenchon, il se coupe complètement des troupes du Parti Socialiste qui rejoindront immédiatement Macron. Donc il est assez coincé, et il est coincé entre ses convictions et les limites que lui impose l'équation politique dans laquelle il se trouve. Quant à Mélenchon, alors là c'est très clair, Mélenchon il se fiche de tout sauf de lui-même. C'est un tribun remarquable. C'est le seul qui ne nous ennuie pas, il faut reconnaître. Quand on écoute Mélenchon, on s'amuse. Bon, on s'amuse à condition de pas penser que ce qu'il mettra.
C'est Hoffman qui l'a regardé jeudi soir, n'a pas l'air de s'être amusé beaucoup.
Oui, mais ça c'est l'effet Pujadas. Mais Mélenchon, dans cette affaire, il est d'une malhonnêteté complète. Il ne veut pas d'accord avec Hamon. Il veut être candidat. C'est donc, je comprends que ce soit tragiquement ressenti par les électeurs de cette tendance-là, parce qu'on voit vraiment des problèmes personnels qui empêchent cela. Et en même temps, Philippe, qui me fait des grands signes sémaphoriques, contre lequel je dois. Enfin, on voit bien qu'il est prisonnier d'une accusation de mauvaise foi. Alors, il fait de fausses propositions qui, évidemment, ne sont pas destinées à aboutir. Le résultat, c'est quand même que cette gauche révolutionnaire, cette gauche protestataire va se diviser, se neutralise, que ça montre que n'émergera pas dans les années qui viennent une vraie force de gouvernement à partir de ces gens-là. Et la seule bonne nouvelle dans cette affaire, c'est que ça fait reculer les chances de Madame Le Pen, car le vrai cauchemar demeure le cauchemar d'un deuxième tour qui opposerait, par exemple, Monsieur Hamon et Madame Le Pen, et qui laisserait quand même frustrer une grande partie de la population.
Monsieur Jean-Luc, pour une fois, c'est pas à vous que s'adressent mes signes sémaphoriques, mais à notre camarade réalisateur, afin qu'il débarrasse la pendule du cache qui m'empêchait de voir l'heure. Mais ce qui ne veut pas dire que vous pouvez continuer.
J'ai terminé, rassurez-vous quand même.
voilà. Juste souligner au passage que Monsieur Drugy a beaucoup fait pour que ceux qui pensent que le cynisme doit être la règle en politique l'emportent.
Ça mériterait. Est-ce que ces primaires pouvaient être des primaires de réconciliation? Est-ce qu'elles n'étaient pas nécessaires des primaires de clarification dans lesquelles il y avait certains qui avaient le manche et d'autres qui ne l'avaient pas, mais ça ne pouvait pas, quand on a des lignes politiques aussi antagonistes que celles qui étaient au Parti Socialiste, c'est absolument impossible de demander aux vaincus de cautionner la politique des vainqueurs. Il y a un moment, comme disait Churchill, où il faut choisir entre ses idées et ses amis.
Oui, mais enfin, on peut aussi choisir entre ses intérêts et les engagements qu'on a pris. Je vous propose que nous passions maintenant à un sujet de politique étrangère. Puisque la 53e conférence sur la sécurité s'est tenue à Munich du 17 au 19 février et que ce sommet a réuni plusieurs centaines de dirigeants du monde autour des thèmes de l'avenir des relations transatlantiques, de la coopération sécuritaire européenne, de la guerre en Syrie et des relations de la Russie avec ses voisins. La question de la politique extérieure des États-Unis après l'élection de son nouveau président a tenu une place centrale dans cette rencontre. Le vice-président américain Mike Pence a réaffirmé l'engagement inébranlable des États-Unis dans l'Alliance Atlantique à des partenaires européens inquiets que Donald Trump ait qualifié l'OTAN d'obsolète. Il a rappelé aux États membres de l'organisation leur obligation de se conformer à l'article 3 du traité qui impose de consacrer au moins 2% du PIB à la capacité de défense. Seuls 5 États sur les 28 que compte l'Alliance ont atteint ce chiffre alors que les États-Unis assurent 70% de son financement. Donald Trump a plusieurs fois menacé de se retirer de l'OTAN si ce déséquilibre devait perdurer, et évoquant les tensions entre Moscou et ses voisins d'Europe de l'Est, Mike Pence a assuré que les États-Unis continueront de demander des comptes à la Russie. La ministre de la Défense allemande, Ursula von der Leyen, s'est dit prête à assumer une part plus équitable du fardeau de la sécurité commune atlantique, mais elle a affirmé que cette participation n'était pas une question de dollars ou d'euros. Elle a rappelé à ses partenaires américains que leur ton vis-à-vis de l'Europe et de l'OTAN a un effet direct sur la cohésion de l'Union européenne, dans la stabilité et dans l'intérêt des États-Unis. Elle a rejeté l'idée d'une égalité entre la confiance accordée à un allié et envers ceux qui remettent en question nos valeurs, nos frontières et le droit international, en référence à la considération pour Vladimir Poutine affichée par Donald Trump. Le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, a qualifié l'OTAN de vestige de la guerre froide et s'est félicité de la fin de l'ordre libéral mondial conçu par une élite d'États occidentaux aux visées dominatrices. Il a appelé de ses vœux un ordre mondial démocratique et juste. Une rencontre entre Donald Trump et les dirigeants des États membres de l'OTAN doit avoir lieu au mois de mai afin d'évoquer la crise ukrainienne. Le cessez-le-feu, entré en vigueur le 20 février entre Kiev et les séparatistes pro-russes, a été violé en moins de 24 heures. Sur cette question, Sylvie Kaufmann.
Alors nous vivons vraiment une époque formidable. Je vous parlais tout à l'heure du caractère exceptionnel de notre campagne électorale. Et là, nous avons eu une conférence sur la sécurité à Munich, tout aussi exceptionnelle. Et là, la plupart des participants... Donc, je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup qui étaient là depuis 53 ans, mais s'accordaient à dire qu'ils n'avaient jamais vu une telle incertitude dans les relations internationales depuis le début de cette conférence. Alors, cette conférence était le point d'orgue d'une semaine proprement extraordinaire où on a vu les responsables américains venir... pour rassurer, venir en Europe pour rassurer leurs alliés européens sur la solidité de l'alliance transatlantique et en réalité se révéler totalement incapable de les rassurer parce que à l'issue de ces 10 jours, disons, d'entretien entre européens et hauts responsables américains, parce qu'ils ont quand même déployé un dispositif impressionnant jusqu'au vice-président Mike Pence, comme vous l'avez dit, le ministre de la Défense, le secrétaire d'État, le ministre chargé de la Sécurité intérieure, John Kelly, enfin, tout ce beau monde était là et n'a pas réussi à rassurer les Européens qui, à l'issue de leurs entretiens, étaient encore plus inquiets qu'au début. Ce qui est quand même assez étonnant comme spectacle, je dois dire, à regarder. Alors pourquoi est-ce que ces Européens sont inquiets? Parce que les Américains eux-mêmes sont apparus comme totalement plongés dans l'incertitude, parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe à Washington. Ils ne savent pas qui commande à Washington. On a au sommet de l'État américain, de l'État fédéral américain, à la Maison-Blanche, au cœur de la Maison-Blanche, visiblement une véritable guerre qui est en train de se livrer pour le contrôle du pouvoir à Washington. Alors à la Maison-Blanche. Donc pour simplifier, c'est un peu la guerre du système contre Donald Trump et on ne sait pas qui va l'emporter. Quand vous parlez aux Américains, ils sont incapables de vous le dire pour l'instant. Et c'est pour ça que le général Mattis ou Monsieur Tillerson ou même le vice-président Pence ne s'aventuraient pas au-delà de déclarations très incantatoires sur la beauté et la permanence de notre solidarité transatlantique, mais sur le contenu des dossiers, ils n'avaient rien de concret à dire parce qu'ils n'avaient pas d'instructions. Ils n'ont pas d'appareil d'État, ça c'est aussi assez extraordinaire. Les nominations, puisqu'on a un spoil system aux États-Unis, donc il y a près de 5000 postes à pourvoir à chaque changement d'administration, et visiblement on n'en est qu'à quelques dizaines de postes pourvus. Donc on nous a décrit des bureaux vides, Covid dans les, dans, au département d'État, au Pentagone. Enfin, tout ça est quand même assez inquiétant. Et on voit bien aux gesticulations de Donald Trump, dont on s'amuse, je crois, de moins en moins, que lui-même ne sait pas très bien où il va, puisqu'il change d'avis souvent sur les questions les plus importantes. Voilà. Alors, en ce qui concerne, ça c'est pour les États-Unis, en ce qui concerne l'OTAN elle-même, il y a cette exigence qui a été renouvelée du partage de fardeau, qui est une exigence ancienne, hein, qui remonte à plusieurs, qui a été exprimée par plusieurs prédécesseurs de Donald Trump et même par Barack Obama lui-même, qui accusait les Européens d'être ces fameux free riders. Des passagers clandestins de la sécurité transatlantique. Et là, voilà, il y a une demande que les pays européens assurent eux-mêmes leur part du financement et de la participation à leur défense. Moi, ça me paraît une exigence tout à fait légitime. Les budgets européens de la défense sont en baisse constante depuis la fin de la guerre froide. Le budget allemand de la défense est à 1,2% du PIB. L'italien aussi est très faible. Il n'y a que quelques pays européens qui arrivent à dépenser les 2% demandés. Et ce sont toujours les États-Unis qui assurent 75% des dépenses de la défense commune. Donc on a une situation là qu'il faut rééquilibrer. Donc ce débat maintenant est ouvert parce que non seulement à cause de ce qui se passe à Washington que j'ai décrit, mais aussi à cause de la sécurité internationale dont les défis sont maintenant multiples et de plus en plus graves. Et donc là, on a vraiment maintenant un débat qui est posé sur comment les Européens peuvent prendre davantage leur part du fardeau. En Allemagne, il y a un débat très intéressant qui s'est ouvert. Je pense que Michaela va nous apporter quelques lumières là-dessus. Et puis, l'autre aspect très intéressant, c'est à nouveau posé, c'est celui de la défense européenne, qui est un vieux serpent de mer, mais auquel on va être maintenant obligé de s'attaquer de manière assez concrète.
Michaela Wiegel.
Oui, je pense... Sylvie a très bien déjà montré ce choc provoqué par l'administration Trump au niveau de notre système de défense à l'OTAN. Et je pense que ce choc est beaucoup plus profond pour des raisons historiques en Allemagne qu'en France, parce que la France, quand même, avant la décision de Nicolas Sarkozy de réintégrer le commandement intégré de l'OTAN, a quand même toujours eu, s'est toujours défini un petit peu comme un partenaire à part qui cherchait à maintenir une stratégie propre. Tel n'était absolument pas le cas de l'Allemagne. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de se dire que c'est à Munich, à l'époque ça s'appelait la Wehrkund, c'était une tentative en quelque sorte aussi de réintroduire l'Allemagne dans une vision stratégique de la défense et non seulement dans un pacifisme un peu béat. Il faut dire que malgré tout et malgré toutes les tentatives de la France de convaincre les Allemands à soutenir davantage une défense européenne, on se disait toujours à la fin des fins, c'est quand même l'OTAN qui est notre garant de sécurité. Et ça s'est vérifié à chaque moment. Et je pense là, on est réellement à un tournant parce que la prise de conscience en Allemagne était assez brutale. Et pour la première fois, le budget de défense allemand va dépasser en termes de montant le budget français. En revanche, on découvre aussi un peu avec effroi le fait que l'armée allemande est dans un état assez pitoyable. Là, par exemple, on participe à une mission de l'OTAN pour sécuriser les pays baltes et les rassurer. Et il s'avère que nos panzers sont beaucoup trop lourds pour pouvoir rouler sur les ponts pour arriver à bon port. Et donc, on ne sait pas comment faire. On sait juste que visiblement, ces pensées vont pas être déployées à temps à cause de ces problèmes. Donc, on découvre en quelque sorte que rien n'a été vraiment pensé pour que nous, Européens, on s'assure vraiment que tout fonctionne, parce que la défense, c'est aussi une question de d'avoir prévu la logistique pour avoir cet effet persuasif. Alors, sur le débat allemand, juste quelques mots, parce que je crois qu'il est très différent du débat français, justement parce qu'on n'a jamais osé penser une défense européenne indépendante. Et là, on y est, et je crois que ça ouvre bizarrement des possibilités. Si jamais on arriverait à avoir un président français et une chancelière allemande qui pourrait travailler 4 ans ensemble pour une véritable défense européenne, puisque pour l'instant, les Allemands n'étaient pas prêts, mais à cause du changement à Washington, je crois que les Allemands sont prêts à changer vraiment de pied. Et ça, c'est valable pour les deux grands partis de gouvernement, aussi bien la CDU que la SPD.
Marc-Olivier Padis.
Oui, alors comme Sylvie a très bien décrit l'ambiance des discussions autour de l'OTAN et toutes les incertitudes qui concernent Washington, je pense que la question qu'on peut se poser, comme a commencé à le faire Michaela, c'est de se demander quelles sont les opportunités pour les Européens à partir de là. C'est-à-dire que Trump est un personnage tellement imprévisible et tellement hypnotique qu'on pourrait passer des heures à commenter ses conférences de presse qui sont vraiment d'un autre monde. Mais il faut aussi à un moment se concentrer sur ce que ça veut dire pour les Européens. C'est une piqûre de rappel, un moment de réveil vraiment sur le fait qu'on ne peut pas simplement, on ne peut plus s'en remettre au bouclier américain. Il faut faire quelque chose. Alors qu'est-ce qu'on peut faire, comme l'a dit Michaela, penser une défense européenne indépendante dans un contexte européen qui est lui-même compliqué par la double évolution de la Grande-Bretagne et de la Turquie, qui sont les grandes puissances militaires au sein de l'OTAN sur le continent. Et là, c'est assez compliqué. Donc d'une part, le Brexit a eu une conséquence ambivalente sur ce dossier de la coopération européenne en matière de défense. Parce que d'un côté, les Britanniques étaient ceux qui bloquaient tout approfondissement des efforts de défense européenne. Donc, d'une certaine façon, on pourrait dire maintenant, on va pouvoir aller plus loin. Mais d'un autre côté, on ne peut pas avoir en Europe de discussions sérieuses sur les questions militaires et de défense sans les Britanniques. Parce que ce sont eux qui ont l'effort militaire le plus important et qui sont actifs, qui ont des forces qui peuvent se déployer très vite, etc. Et d'ailleurs, les Britanniques, dans les négociations du Brexit, ont indiqué que sur les questions militaires, ils seraient quand même ouverts toujours à des discussions et des coopérations avec le reste de l'Europe. Donc il va falloir balancer ce qu'on peut faire avec ce nouveau contexte. Et puis d'un autre côté, on en a déjà parlé à des précédentes émissions, il y a l'évolution de la Turquie, qui est quand même étonnante, qui est dans une sorte de nouvelle alliance, cette alliance étrange dont on a décrit aussi la fragilité en d'autres occasions, mais entre l'Iran, la Russie et la Turquie, alors que la Turquie est quand même un membre très important de l'OTAN. Et donc, quid de la situation avec cette nouvelle décision stratégique du côté d'Ankara? Est-ce que c'est solide? Est-ce que ça va se continuer? Est-ce que ça va avoir des conséquences pratiques? Ça fait quand même beaucoup d'incertitudes. Après, il y a quand même une ouverture que je verrai, c'est que effectivement l'Europe, elle peut prendre en charge des aspects de sécurité qui sont plus larges que les questions simplement militaires. C'est-à-dire qu'on sait que c'est un des points faibles de l'OTAN, c'est une alliance militaire avec les dissuasions nucléaires, dans un contexte où les conflits et les formes d'insécurité aujourd'hui sont beaucoup plus larges que les conflits tels qu'ils avaient été pensés pour la guerre froide. On est aujourd'hui dans des situations de déstabilisation interne, d'effondrement des États, de terrorisme qui suppose des actions de défense beaucoup plus variées, beaucoup plus larges que simplement, évidemment, le parapluie nucléaire ou des choses comme ça. De ce point de vue-là, l'expression extrêmement lapidaire de Trump, dire que l'OTAN était obsolète parce qu'elle ne s'est pas occupée du terrorisme, touche un sujet juste, mais évidemment incomplet. Mais disons, il faut prendre en compte l'aspect maintenant multidimensionnel et transformé des menaces, et peut-être là, mais dans une, évidemment, dans une coopération avec l'OTAN, l'Union européenne peut jouer, enfin peut avoir un rôle nouveau et différent à jouer sur la prise en charge ou la réponse à des menaces plus variées.
Jean-Louis Bourlange.
Oui, le premier problème, c'est effectivement l'extrême confusion des messages qui viennent de Washington. Sylvie l'a dit de façon très claire. Et ce sont des messages. Alors, on voit bien que les gens qui étaient là, Tillerson, le vice-président Mike Pence, Mattis, etc., étaient portés par l'idée qu'il fallait qu'ils tiennent des discours raisonnables et qu'ils apportent aux Européens les sécurités, les garanties qu'ils attendaient. Et en même temps, comme l'a dit Sylvie, ils n'étaient absolument pas en état de le faire politiquement. Ça va dire dans tous les sens. Parce que non seulement Monsieur le Président Trump a quand même affiché de façon ostentatoire son amitié pour la Russie et sa solidarité, son indifférence aux États baltes, mais il a complètement changé. Ces dernières semaines, il a annoncé qu'il fallait tenir bon en Ukraine. Il a félicité les Lituaniens de se déclarer solidaires des Ukrainiens, qu'on prenne qui pourra. Et même alors que nous, les Français, les Allemands, un peu chafouins, un peu prudents, un peu inquiets, nous faisons semblant d'oublier la Crimée. La Crimée, c'est indéfendable sur le plan juridique, mais si on commence à vouloir faire la politique internationale uniquement sur la défense des rapports de force, des rapports de droit, on est mal parti. Donc, on n'en parle plus de la Crimée. Et on dit, ce qu'il faut, c'est respecter les accords de Minsk. Bon, qu'est-ce que fait Trump? Il dit, non, on supprimera les sanctions du jour où la question de la Crimée, où les Russes se sont retirés de la Crimée. Donc quelque chose qui est totalement maximaliste. Donc on a vraiment affaire à quelqu'un qui dit n'importe quoi dans les deux sens et qui, n'ayant pas d'administration, n'est pas ni limité ni relayé par des gens raisonnables, sauf les quelques personnes qu'il a nommées et qui ne sont évidemment pas crues. Donc on est vraiment... Je veux dire, c'est assez étonnant que Madame Le Pen puisse se prévaloir de Trump comme d'un modèle pour la politique qu'elle pourrait mener. Moi, ça, si j'étais elle, je prendrais mes distances parce que c'est quand même pas du tout rassurant sur le modèle de politique étrangère qu'on peut avoir. Deuxièmement, l'Allemagne. Alors l'Allemagne, bien sûr, toute la sécurité de l'Allemagne depuis l'après-guerre est fondée sur l'idée qui est absolument centrale qu'on apporte à l'Allemagne la sécurité qu'elle avait jamais eue antérieurement. Hein, toutes les analyses de Kissinger et les analyses allemandes, de Schauble, Lammers, etc. Et disaient, l'Allemagne, dans sa position centrale, Kissinger avait résumé la situation, doit être à la fois assez puissante pour résister historiquement à l'armée française, à l'armée russe simultanément, mais pas assez puissante pour dominer l'Europe. Évidemment, la seule façon de résoudre ce problème, c'était d'introduire de la sécurité collective, l'OTAN et l'Union européenne. Ça a été fait. Là, crac, donc c'est quelque chose de vital pour les Allemands. En même temps, depuis le départ de l'OTAN du général de Gaulle, depuis 66 et jusqu'au retour décidé par Sarkozy, l'OTAN était en fait co-gérée par l'Allemagne et par les États-Unis. Par le plus exposé, l'Allemagne, et le plus puissant, les États-Unis. Et maintenant, tout cet équilibre se dérobe. Et le pacifisme rationnel est évidemment suspendu dans le vide. Et donc, on comprend les réactions, d'ailleurs, toujours très brillante du ministre de la Défense, Madame von der Leyen. Elle était venue à Paris il y a quelque temps. Alors, les Allemands, quand ils se mettent, comme ils ont quand même quelques complexes sur le passé, quand ils se mettent à faire de la défense, ils commencent par citer longtemps Monseigneur Jean XXIII, a cité toutes les autorités ecclésiastiques possibles pour se prémunir de tout. Enfin, on voit bien la détermination nouvelle d'une grande partie des autorités fédérales qui disent on doit faire quelque chose. Mais, alors, ils veulent faire quelque chose, mais quoi? Troisièmement, on a le problème de l'Europe. Alors, je vais très vite. Le problème de l'Europe, c'est vraiment la bouteille à l'encre. Parce qu'on a d'un côté, on a deux problèmes. Où faire passer le pointillé entre ce qui relève de l'OTAN et ce qui relève d'une défense européenne. Seconde affaire, comment faire passer l'équilibre entre ce que j'appellerais les dépenses de protection, les efforts de protection du périmètre OTAN, du périmètre européen, et les dépenses de projection qui sont impliquées par toute la situation dans laquelle nous sommes au Moyen-Orient, les problèmes de porte-avions, etc. Donc on a ces deux. Et alors là-dessus se greffe le problème britannique qui complique tout, parce que les Britanniques sont quand même les grands spécialistes avec nous de l'engagement de la défense des Européens. Michael Fallon, le ministre de la Défense, avait osé dire en juillet dernier qu'il fallait s'engager en matière de défense vers un ever closer union avec la France. Et en même temps, ils sont dans une relation, dans une interprétation du buzz, ce qui n'est pas le cas de Fallon, qui était un anti-Brexiteur décidé, mais ils sont dans une relation, une interprétation du Brexit extrêmement irrationnelle, dans laquelle ils cultivent leur opposition idéologique à l'Europe continentale. Et donc, alors qu'on a besoin de clarté idéologique, de rationalisme, de modération, et on a besoin d'un effort conjoint des Britanniques et des continentaux pour dire à Trump, ça suffit comme ça, faudrait peut-être retrouver les voies du bon sens, on a au contraire une déstabilisation de la relation avec le Royaume-Uni. Ça ajoute à l'incertitude générale.
Sylvie Kaufmann.
Oui, juste en complément, sur l'Allemagne, le débat qui s'ouvre est d'une nature différente du débat qu'il peut y avoir chez nous, parce qu'il s'agit déjà de définir la notion de défense en Allemagne. Et on voit que déjà, quand on parle de ce budget de 2%, plusieurs responsables disent « Ah, mais on va y mettre, et tout ça est justifié par cette attitude que vous avez évoquée, évidemment, par rapport au passé, on va y mettre l'aide internationale au développement, parce que ça aussi, c'est de la sécurité, l'aide au développement, la coopération internationale, c'est de la sécurité. Donc, tout cet argent qu'on dépense va être inclus dans les
ça
2%.
C'est libère, hein.
Voilà, on parle, pas seulement, on parle aussi de éventuellement porter jusqu'à 3% avec tous ces budgets. D'autre part, sur la défense européenne, il faut pas se cacher que c'est un chantier énorme, parce qu'il y a non seulement politiquement, il faut se mettre d'accord, et là on voit que ça va être très compliqué. La France a eu différentes attitudes sur cette question, et les autres, enfin on est quand même 27 ou 28. Est-ce qu'on sera 27 justement ou 28, puisque le rôle de la Grande-Bretagne est essentiel, puisqu'il y a essentiellement deux pays qui ont vraiment des capacités de défense importantes pour l'instant, ce sont la France et la Grande-Bretagne. Donc si la Grande-Bretagne reste complètement dehors, on a un gros problème. Et puis, il y a à harmoniser toutes nos forces, nos capacités. On a des industries d'armement très puissantes en Europe. L'Allemagne, l'Italie, la France, la Suède a une industrie d'armement très, très puissante, et qui vendent les mêmes choses. Je ne sais pas combien de pays fabriquent des sous-marins militaires en Europe, mais plusieurs, au moins 4, je crois, dont nous, les Espagnols, voilà, les Suédois. Donc tout ça doit être harmonisé, mutualisé, partagé. C'est vraiment un chantier très, très important, et on en a pour un certain temps, je crois.
Michaela Wiegel.
Oui, alors je suis d'accord que le débat en Allemagne sur est-ce qu'il faut intégrer l'aide au développement, ça paraît d'une nation comme la France qui n'a jamais cessé de se projeter comme une force d'intervention à l'étranger, ça peut paraître bizarre. Mais en même temps, j'aimerais bien souligner que en Allemagne, on a tout ce qui est budget de la défense rentre absolument pas dans le calcul de la sécurité intérieure, parce que les soldats ne peuvent pas avoir des missions de sécurité intérieure. D'ailleurs, avec le terrorisme, il y a débat qui s'est engagé aussi. Mais en France, il faut quand même voir qu'aujourd'hui, une partie du budget de la défense est amputée. Enfin, si on ose mettre à disposition des militaires dans des tâches de sécurité intérieure. Et cette possibilité-là n'existe pas. En Allemagne, elle est très strictement encadrée en cas de catastrophe naturelle où vraiment il y a besoin de faire appel à l'armée. Mais autrement, l'armée n'est pas employée à l'intérieur du pays. Et donc, je pense que c'est un débat plus vaste qu'il faut avoir. Et si on a ce débat plus vaste, effectivement, je trouve que la question de l'aide aux pays dont émanent les plus grands risques de sécurité est tout à fait justifiée. Quand on le prend isolé, ça, effectivement, ça rajoute un petit peu à l'image pas très flatteur qu'on a que quand on part en Afghanistan, on s'occupe de trier les poubelles et d'organiser le recyclage. Mais je pense que réellement, on est là face à un défi qui englobe beaucoup de dimensions et qui demande effectivement, surtout à l'Allemagne, un changement très, très profond.
Jean-Louis Bourlange ?
Oui, je crois qu'il faut bien comprendre que la défense est un concept beaucoup plus global que le concept militaire. Le général de Gaulle, qui quand même était très sensible à ces questions, avait constitué un ministère des armées. Monsieur Mesmer était ministre des armées. Et l'ordonnance portant organisation de la défense nationale, la défense était tous les ministères. Parce que, sauf pour de Gaulle, l'État, c'était en soi la défense dans ses formes économiques, civiles, politiques, militaires, sécuritaires. Donc je crois qu'il faut effectivement avoir une approche globale, même si en tout cas moi je suis très sensible à ce que dit Michaela sur le fait que je crois que l'armée devrait, je ne vois pas pourquoi, alors qu'on a une gendarmerie qu'on devrait peut-être développer, c'est l'armée qui fait la sécurité intérieure. Ça m'a toujours paru, ce qu'on fait depuis 2 ans de ce point de vue-là, un peu hérétique.
Marc-Olivier Padis.
Oui, je reviens juste sur les dépenses, la contribution des pays européens à l'effort de défense au sein de l'OTAN. Ce qu'avait dit Donald Trump, c'était que ceux qui ne paieraient pas leur part des 2% donc de PIB intérieur ne seraient pas protégés pour l'OTAN. Ce qui était quand même une formule qui a fait froid dans le dos à plusieurs. Mais j'ai été surpris de découvrir à cette occasion-là, par exemple, que la France n'est pas à 2%. En fait, on est à 1,7% et que les pays qui sont à 2%, c'est la Grande-Bretagne, la Pologne,
les Baltes.
Ça tombe bien parce qu'on est derrière.
Oui. Donc ils sont en première ligne. Mais eux, ils ont un effort de défense important, mais l'OTAN n'a pas de soldats ou d'infrastructures directement dans les pays baltes. Donc c'est assez surprenant. Donc si tous les pays européens, donc ça veut dire la France y compris, augmente son effort de défense, on pourrait arriver à un budget qui, pour l'ensemble des pays européens, serait l'équivalent du budget que la Russie consacre aux dépenses militaires. Donc ça donne une idée, en tout cas, des équilibres de force importants. Mais vu la question de la dette et des déficits, on voit mal comment les pays européens, aujourd'hui, pourraient consentir un tel effort pour les dépenses de défense.
Sylvie Kaufmann.
Oui, juste une petite chose sur le concept global de défense. C'est vrai qu'il est aujourd'hui élargi à cause de la multiplicité des risques sur la sécurité mondiale. Et par exemple, Bill Gates était à la conférence de Munich pour plaider pour que la santé mondiale soit considérée comme un risque de sécurité. Et c'est vrai que ce concept maintenant s'étend de plus en plus.
Je vous remercie. L'heure a sonné de notre dernière séquence, la séquence des brèves, pour laquelle je vais, décidément un dimanche pas comme les autres, céder mon tour à Jean-Louis Bourlange pour une raison que nos auditeurs vont vite comprendre.
Oui, je voudrais faire une brève qui nous émeut profondément les uns et les autres, notamment ceux qui participent à cette émission depuis longtemps. C'est-à-dire, je voudrais signaler, recommander le livre de Marielle Gallet, qui est la femme de Max Gallo, qui est paru chez Grasset, qui s'appelle Bella Ciao. Max a quitté cette émission, qu'il avait contribué à animer de façon absolument splendide pendant des années. Et il suffisait de se promener dans les rues de France avec Max Gallo pour savoir que c'était vraiment une personnalité politique absolument fondamentale. Il a quitté cette émission pour des raisons de santé. Et Marielle, qui est sa femme, s'occupe de lui. Il est atteint d'une maladie de Parkinson et elle décrit par le menu, c'est une espèce à la fois d'ascèse et de thérapie pour elle qui accompagne la souffrance de Max jour après jour, que d'écrire ce livre qui est un livre à la fois de gloire, de souffrance et d'amour. De gloire parce qu'il y a quand même derrière tout cela la formidable personnalité de ce Balzac de l'histoire, par la prolixité, la capacité de travail, la clarté, le style qui était celle, qui est encore celle, puisqu'il vient de publier encore La Révolution 1917, une passion russe, qui est celle de Max Gallo. Et là, on voit par exemple, pourquoi ça s'appelle Bella Ciao? Ceux qui connaissent Max savaient qu'il adorait chanter Bella Ciao. Et en réalité, un jour, il voulait séduire le jour où il a voulu séduire Marielle, il la voyait danser, il n'aimait pas danser, ça l'a agacé, il a arrêté l'orchestre et il s'est mis à chanter Bella Ciao devant tout le monde pour capter son attention et son affection, c'est tout, ça c'est la gloire de Max. La souffrance, elle est atroce. Et effectivement, je crois que Max peut ressentir durement le spectacle de toutes les infirmités, les malheurs, les chutes, les hallucinations, tout ce qui accompagne cette maladie de Parkinson qui est terrifiante. Je pensais, c'est idiot, mais je pensais en lisant ce livre à la phrase « Quand on a voulu lier les mains du roi Louis XVI », il a eu un moment de recul et le prêtre qui l'assistait lui a dit « Sire, l'imitation de notre Seigneur Jésus-Christ n'en serait que plus parfaite. » Et je pense que Max, qui est un croyant, vit quelque chose qui est quand même une véritable passion au sens christique du terme. Et c'est enfin un livre d'amour, parce que effectivement cette femme, plus jeune que Max, qui est une amie formidable, on était invité à déjeuner, c'était une cuisine toujours absolument de rêve, etc., qui a été une excellente parlementaire européenne, qui a pris beaucoup plus au sérieux son boulot que Max ne l'avait fait. Elle est dans cette affaire, elle déploie des trésors d'affection, de dévouement et d'amour. Et je pense que dans cette extrême difficulté de la vie, l'union de ces deux personnes est quelque chose de vraiment admirable.
Salut à Max. Sylvie Kaufmann.
Oui, j'ai commencé à participer à cette émission avec Max Gallo et je lui j'en profite pour lui transmettre toutes mes pensées d'amitié et de solidarité parce que mon père était lui-même atteint de cette maladie et je comprends tout à fait ce qu'il traverse. Je voudrais recommander à ceux qui peuvent le faire encore de se précipiter à la Fondation Louis Vuitton parce qu'ils ont jusqu'au 5 mars, elle a été prolongée pour admirer cette collection de Schtchoukin, ce collectionneur russe extraordinaire de l'art moderne du début du XXe siècle. Il y a vraiment des chefs-d'œuvre français essentiellement à voir encore. Et c'est ouvert la dernière semaine de 7h à 23h. Et juste une petite chose, je voulais remercier le patron de l'aéroport de Paris, Augustin de Romanet, qui a été sensible à notre plaidoyer pour les talons plats pour les hôtesses qui travaillent dans les aéroports, qui n'a pas suivi votre recommandation, Philippe, qui était d'imposer aux hommes le port des talons hauts pour avoir plus d'égalité, et qui m'a envoyé plein de croquis formidables sur les talons réglementaires de 3,5 cm à 5,5 cm pour ces hôtesses.
L'influence de cette émission s'étend de jour en jour. Marc-Olivier Padis.
Alors pour les auditeurs qui voudraient encore se plonger dans les questions de l'élection présidentielle, s'ils ont encore suffisamment d'appétit pour ce sujet, je recommande un livre d'Olivier Roucan, paru aux éditions François Bourin, « En finir avec le président », un titre un peu spectaculaire, mais un livre extrêmement informé et précis, qui fait le point sur les questions institutionnelles, ce que peut le président de la République. Et il montre très bien comment la dernière mutation de la présidence, c'est-à-dire le quinquennat, a affaibli le président sans revaloriser pour autant les autres fonctions. Et il essaye de voir comment on pourrait sortir de ça.
Michaela Vigal.
Oui, je suis tombée un peu par hasard sur le livre de Sylvain Tesson sur les chemins noirs. Et je dois dire, alors que c'est pas du tout un livre politique à première vue, alors d'abord, parce qu'on parlait de Max, que je salue de tout mon cœur, c'est aussi une histoire un peu de comment s'adapter à une maladie. Mais c'est surtout un petit peu l'ambiance actuelle. Il suit en fait les petits chemins qui sont sur les cartes ING très détaillées, souvent oubliées même par les gens qui habitent autour. Et c'est cet éloge de la France immobile, de cette France qui n'est pas cette France du Front National, mais une France qui est quand même un peu oubliée. Et je trouvais que c'était un essai à recommander, à lire. Voilà.
Merci beaucoup. C'était L'Esprit Public, une émission de Philippe Meyer, réalisée par Luc-Jean Reynaud, préparée avec Augustin Bernard Roudex et Mathilde Cadreau, avec aujourd'hui à la technique Jean-Louis Deloncle. Vous avez évidemment rendez-vous avec Alain Crugère pour On ne parle pas la bouche pleine. Il reçoit aujourd'hui Jean-François Berthelot, qui est à la fois cultivateur et boulanger qui parlera de la diversité des grains et des levures. J'espère vous retrouver la semaine prochaine à la même heure sur cette même chaîne pour une nouvelle édition de L'Esprit Public.